Salut la team podcast, ici Pauline Agneaux et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast pour vous aider dans vos questionnements personnels et professionnels. Le lundi, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Le mercredi, je réponds à vos questions sur des thèmes hyper variés autour de l'entrepreneuriat, du business en général, du marketing, de la communication, du management aussi, des réseaux sociaux et bien plus. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Merci Mathilde pour ta question d'ailleurs. Mathilde a cofondé une marque de livres personnalisés pour enfants qui s'appelle Zèbre et Colibri, que vous pourrez retrouver directement sur leur site zèbre-du-6-colibri.com que je vous mets en note sur le site du Gratin, mais aussi via leur site Instagram Zèbre et Colibri tout simplement. Alors Mathilde m'a envoyé un mail pour me poser une question qui paraît assez évidente, mais en finale qui est assez importante. Elle me dit « Salut Pauline, peux-tu m'aider à réfléchir à des choses simples à mettre en place pour un nouvel entrepreneur ayant peu de moyens pour accroître sa visibilité ?» Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée dans cette question. D'abord, elle me dit « mettre en place des choses simples, des choses simples ». Ça veut dire des choses qui n'ont pas 10 ans à se mettre en place, des choses qui sont faciles, des choses qui sont évidentes, des choses que tout jeune entrepreneur pourrait mettre en place. Hyper important. Deuxièmement, elle me dit avec peu de moyens. Et alors là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on est souvent dans ce cas quand on lance sa boîte. Il n'y a quand même pas tant de personnes qui lèvent des fonds que ça, et tant mieux d'ailleurs. Et au final, je trouve qu'apprendre à vendre sans moyens est sans doute l'une des compétences les plus importantes que doit acquérir un entrepreneur, même si plus tard, il a plus de ressources. Le fait de rester conscient du coût de chaque action qu'on entreprend est pour moi absolument clé pour pérenniser et rentabiliser son activité. Du coup, mon conseil principal à Mathilde, c'est tout simplement que pour moi, quand on a peu de temps, de personnes à disposition et surtout peu de moyens, il n'y a pas de secret, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut concentrer les efforts, frapper de toutes ses forces et avec récurrence sur un ou deux aspects grand maximum de son business et surtout ne pas s'éparpiller sur de mini-actions qui n'ont pas d'importance. Donc faire de la stratégie d'abord, identifier vraiment les champs les plus importants en termes d'opportunités et ensuite concentrer les efforts dessus et taper avec un marteau sur un clou toujours de façon récurrente pour que ça rentre. Avant de passer à l'épisode du jour, j'en profite pour vous dire que si c'est pas déjà fait, et je sais que c'est pas le cas pour tous ceux qui m'écoutent parce que vous êtes de plus en plus nombreux ici, c'est vraiment, vraiment, sincèrement hyper utile que 1. Vous vous abonnez au Gratin, et ça, vous avez le choix, messieurs, dames, vous pouvez le faire tout autant sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur Castbox, mais vraiment, le monde est à vous. Deuxièmement, que vous mettiez une note ou un avis sur iTunes au Gratin. Ça participe vraiment à la notoriété du podcast et ça fait qu'il a de la visibilité. Et je dois admettre aussi que je prends un malin plaisir à lire tous ces petits avis que vous mettez, qui sont en général très sympas. Mais d'ailleurs, si vous voulez pas mettre un avis sympa, c'est pas grave, ça m'intéresse quand même. Donc n'hésitez pas à le faire. Prenez 2 minutes, lâchez votre téléphone s'il vous plaît. Mettez-moi un avis, abonnez-vous. Et puis aussi au passage, n'hésitez pas à parler du Gratin à 2-3 de vos amis. Bon allez, j'arrête avec tout ça et c'est parti pour la leçon du Gratin. Allô Mathilde ?
Oui, bonjour Pauline.
Salut, bah écoute, bienvenue sur la leçon du Gratin. Je suis très contente de t'avoir. Merci d'avoir postulé, entre guillemets, d'avoir posé ta question.
Merci à toi.
Écoute, est-ce que tu peux me dire un petit peu plus qui tu es, quelle est ton activité et puis du coup me reposer la question que tu m'as envoyée par mail, s'il te plaît, pour la partager aux auditeurs.
D'accord, très bien. Alors, je m'appelle Mathilde Guillet, j'ai 35 ans et je viens de monter une boîte avec une amie graphiste. Donc, c'est un site de vente en ligne de livres personnalisables pour les enfants et imprimables à la demande.
Pardon ? Qui s'appelle comment ?
Ça s'appelle Zèbre et Colibri. Donc, c'est en ligne là depuis quelques jours. Ça fait un an qu'on travaille sur le projet. Il y a eu vraiment un gros développement au niveau du site internet parce qu'en fait, c'est de l'automatisation de fichiers. C'est-à-dire que le client choisit un petit avatar qui ressemble le plus à l'enfant à qui il veut offrir le livre ou l'affiche, renseigne un prénom et en fait, le fichier se génère automatiquement pour partir dans un FTP chez l'imprimeur. Donc, on a eu aussi pas mal de retard par rapport à ça. Voilà. Du coup, on s'est concentré sur cette partie de développement de site internet et de développement aussi en termes de production des ouvrages et des affiches avec des illustrateurs et des auteurs puisqu'on travaille de manière classique dans l'édition, comme l'édition jeunesse classique. D'ailleurs, on vient de l'édition jeunesse. Et donc là, maintenant, il faut qu'on on développe la partie communication, et c'est vrai que c'est pas du tout notre métier à la base. Donc on découvre, on a lancé les réseaux sociaux, et là on est en fait confronté à comment accroître notre visibilité quand on est une petite marque qui débute et qui a finalement peu de moyens humains, puisqu'on est deux, et peu de moyens financiers aussi. Voilà,
et vous êtes toutes les deux graphistes de formation, ou comment vous êtes répartis un peu les rôles dans cette histoire?
Alors, Mélissa est graphiste et moi, je suis éditrice de métier. Donc, d'accord. Je m'occupe de toute la partie production, les textes. Et Mélissa, elle a défini toute l'identité visuelle de la marque et elle s'occupe aussi du suivi des illustrateurs, des mises en page des produits, etc. C'est assez bien réparti entre nous.
Génial.
C'est un bon binôme.
Super. Une question pour toi. Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place comme action justement de communication pour faire connaître la marque?
Alors, on a lancé l'Instagram et le Facebook. Là, on commence à avoir un planning éditorial qui est assez rodé, c'est-à-dire qu'on fait 4 posts par semaine, les stories le vendredi. C'est vrai que pour le coup, on s'attendait à ce que ça aille un petit peu plus vite que ça.
Ah, c'est du boulot.
On a à peine 200 abonnés sur Insta et pareil sur Facebook. Donc en fait, on se rend compte que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et donc là, on s'interroge. Est-ce qu'il faut qu'on aille un peu partout au risque finalement de ne pas faire les choses pleinement? Et donc, ou est-ce qu'on se concentre sur 2-3 canaux et finalement lesquels? Pour pas non plus se tromper.
Bon, alors, c'est une super bonne question et je pense que c'est une question que se posent beaucoup, beaucoup de jeunes entrepreneurs, donc je te remercie de la poser. Je pense qu'il y a deux écoles. Moi, je t'avoue que je suis quand même plutôt partisane de faire bien et peu, et de se concentrer à fond sur, alors il faut quand même pas se planter et choisir des trucs où t'as une réelle opportunité, hein, faut être clair, donc il faut quand même y réfléchir en amont, mais moi je serais quand même partisane de faire ça. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit, en fait aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous avez des ressources limitées, des ressources en temps, des ressources humaines, des ressources financières limitées, et donc vous allez pas pouvoir saupoudrer votre énergie partout. C'est un peu comme j'ai envie de dire c'est un peu comme malheureusement les subventions publiques, si jamais tu saupoudres il se passe pas grand chose, donc il faut y aller à fond. J'ai tendance à dire assez souvent qu'en marketing, quand on a peu de moyens, en fait, il faut taper très très fort, du plus fort qu'on peut, sur le même clou en permanence avec un marteau pour vraiment ancrer, si tu veux, ton message. Et donc moi, c'est vrai que j'aurais tendance à, en tout cas c'est ce que je ferais moi, à te proposer de plutôt te concentrer sur quelques actions sur lesquelles tu vas investir toute ton énergie, tout ton temps, toute ta créativité, enfin tout ce que tu peux dessus. Alors la question c'est, est-ce que tu le fais sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu estimes que pour faire connaître la boîte sans moyens, il faut que peut-être tu essayes de développer aussi d'autres moyens de distribution? Je ne sais pas aussi quelle est votre stratégie vis-à-vis de ça. Est-ce que ça va être uniquement e-commerce? C'est quoi un peu votre business model?
Oui, on ne peut pas faire autrement étant donné qu'il y a de la personnalisation.
D'accord.
C'est-à-dire, on peut pas vendre. On s'est posé la question d'être peut-être présente sur des salons, mais c'est compliqué aussi parce qu'on peut pas vendre en direct. Donc, il faudrait qu'on ait des tablettes ou des choses comme ça. Et donc, on se dit, on va peut-être attendre 2020 plutôt pour essayer de bien réfléchir comment on peut amener les choses en salon. Donc, finalement, on se dit, peut-être pas pour 2019 les salons, mais c'est vrai qu'on réfléchit peut-être à voir si on peut pas avoir des partenariats.
Ouais, bien sûr.
Là, on vient de commencer les sponsoring aussi sur les réseaux sociaux. Ce qu'on avait
tu commences à faire un peu de pub, d'accord.
Voilà, mais on ne sait pas trop non plus. On tâtonne un petit peu, mais c'est pas évident. En fait.
Écoute, moi j'ai envie de te dire qu'avec peu de moyens, l'avantage c'est que les réseaux sociaux c'est quand même quelque chose sur lequel tu peux avoir énormément de visibilité. Ça peut coûter très cher, mais ça peut aussi être quelque chose sur lequel tu arrives à avoir beaucoup de drive assez rapidement. Notamment que vous êtes quand même sur un secteur, l'enfance qui a le vent en poupe, et sur lequel il y a des communautés qui sont vraiment très impliquées. J'en parlais il y a pas très longtemps avec quelqu'un. Sincèrement, pour moi c'est évident qu'il faut que vous essayiez de démarcher un maximum à la fois d'influenceurs, de communautés de mamans. Moi, je ne connais pas grand-chose, je ne suis pas encore maman, mais des groupes Facebook, alors à l'époque, moi, je suis un peu une vieille de la vieille, mais il y en a encore, je sais, des communautés, tu vois, par exemple, sur certains forums de mamans. Ça, c'est des choses, en fait, qu'il faut que tu listes et il faut absolument que vous les démarchiez et il faut que vous trouviez des offres, en fait, à leur faire. Quand je dis des offres, c'est peut-être un petit code promo, leur expliquer leur démarche ou leur faire visiter peut-être, je ne sais pas, votre système de
c'est vrai que ça pourrait être l'imprimerie par
l'imprimerie
exemple,
tu vois, ça peut être intéressant, enfin en gros si tu veux il faut que tu réfléchisses à une offre et je pense qu'il faut que vous alliez vers des communautés. Pourquoi? Pour créer vous-même votre communauté, parce qu'en fait l'avantage de ça c'est que ensuite quand vous allez avoir des personnes qui vont être fans de votre marque, elles vont en parler autour de vous, donc ça va être du marketing qui va s'auto-générer. Il y a un bouquin d'ailleurs qui est assez intéressant à ce sujet, enfin c'est pas vraiment un bouquin, c'est plus un PDF, un article qui a été écrit par Kevin Kelly qui est disponible en français et en anglais. Ça s'appelle en anglais 1000 True Fans, en français de mémoire, donc c'est 1000 vrais fans, et qui t'explique en gros que quand tu arrives à vraiment créer une communauté avec 1000 fans, mais qui sont des vrais fans, qui aiment ta marque, qui sont des ambassadeurs, qui vont en parler, bah, en fait, tu vas réussir à vendre à peu près n'importe quoi et être rentable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont en parler autour de toi, que tu vas très peu dépenser et que ça va, une fois de plus, s'auto-générer, que ça va être vraiment un système hyper vertueux. Donc, je pense que vous avez intérêt à essayer au maximum d'aller taper dans des communautés qui sont hyper affinitaires avec la vôtre.
Ouais.
Donc ça, il faut le travailler, il faut essayer de comprendre qui sont ces personnes qui veulent avoir des livres et affiches pour enfants à personnaliser. Et une fois que tu as compris ça, essayer au maximum de leur proposer des contenus qui sont intéressants, leur proposer peut-être des événements, leur proposer peut-être de faire des visites pour que vraiment ces personnes elles soient fans, qu'elles deviennent clientes et qu'ensuite à leur tour elles parlent de ta marque. Moi c'est la première chose que je ferais et du coup ça pour moi en fait c'est une stratégie globale qui va ensuite se traduire à la fois par un peu de Facebook, un peu d'Instagram, etc. Je pense pas que je réfléchirais juste en termes de est-ce qu'il faut que je sois à fond sur Facebook, est-ce qu'il faut que je sois à fond sur Instagram ou sur Twitter. Parce qu'en fait, c'est un peu limitant, si tu veux, comme penser. C'est globalement, il faut que vous créiez une communauté autour de Zèbre et Colibri. Pour moi, c'est plus ça qui est intéressant, tu vois, que de se dire est-ce qu'il faut que j'ai 1000 followers ou 2000 followers sur Instagram. Donc, je pense que ça doit être ça, la stratégie. Et après, il faut que vous réfléchissiez entre vous. Peut-être que là, toi, tu as des idées déjà, mais quels sont les leviers pour que vous arriviez à créer cette communauté ? Pour qu'elle parle tout simplement de votre marque. Une fois de plus, des influenceurs, des marques même dans le milieu de l'enfance, il y en a énormément et moi je vois pas pourquoi elles seraient pas intéressées à l'idée de créer éventuellement, tu vois. Enfin, rien ne t'empêche de contacter des marques qui sont pas encore des marques énormes pour leur dire, écoutez, là il y a les fêtes des mères qui approchent. Bon, alors là c'est peut-être un peu court cette année, mais il y a la fête des mères qui approche. Pourquoi ne pas proposer en cadeau un jeu, on fait un jeu concours et on offre un livre ou une affiche à personnaliser pour la fête des mères. Je dis n'importe quoi, je te dis ça, ça peut être pour la fête des pères, ça peut être pour autre chose, ça peut être sans occasion même, mais pour moi, en fait, vous avez vraiment intérêt à essayer de trouver un maximum de personnes tout simplement qui vont s'intéresser à votre marque et qui vont en parler, et ça, en fait, ça va créer cette fameuse communauté qui va ensuite te permettre vraiment de vendre, entre guillemets, à moindre coût. Et ensuite, dans un deuxième temps, tu iras au-delà de la communauté. Là, tu vas pouvoir ensuite aller beaucoup plus loin et commencer à réfléchir à peut-être des moyens de distribution alternatifs pour ne pas vendre uniquement online, ce genre de choses.
Finalement, c'est possible, mais c'est vrai que ce sera dans un second, pas dans un troisième temps.
Exactement. D'accord. Est-ce que tu sais si aujourd'hui il y a beaucoup de recherches sur le thème des livres ou des livres d'enfants ou des affiches pour enfants à personnaliser ?
Alors, il commence à y avoir quelques acteurs, mais ce sont surtout des acteurs étrangers qui sont sur le marché français et qui font beaucoup d'AdWords.
C'est ça.
Et là, pour le coup, l'AdWords, c'est quand même ça a un certain coût.
Tout à fait. Alors, l'AdWords, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'Instagram ou Facebook, ça c'est évident. Mais après, la raison pour laquelle ça a un coût, si tu veux, c'est que contrairement à Instagram ou Facebook, mine de rien, en fait, c'est ce qu'on appelle du push marketing, c'est-à-dire que tu vas mettre devant des personnes qui sont normalement affinitaire avec ta cible, un message publicitaire que potentiellement ils peuvent apprécier. AdWords, c'est pas la même chose, c'est l'inverse, c'est eux qui viennent te chercher, c'est eux qui font une requête et qui tombent vers toi. Donc forcément, en fait, c'est tellement qualifié, si tu veux, c'est normal que ça coûte plus cher. En marketing, il n'y a pas de secret, plus c'est qualifié, plus c'est ciblé, plus ça coûte cher. Parfois, tu peux avoir des tout petites audiences, mais qui sont tellement qualifiées que ça peut coûter très cher, alors qu'à l'inverse, si tu as quelque chose avec, je sais pas, 500 000 personnes, mais qu'en fait, c'est que des, entre guillemets, des faux comptes, ça vaut rien, tu vois. Donc, je te posais la question parce que je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer de faire des recherches sur le sujet. Je suis pas perçue, j'y connais rien, une fois de plus, c'est pas du tout un secteur que je connais, mais moi je te donne un exemple en fait avec notre boîte. C'est vrai qu'au début personne ne pensait que rechercher des bijoux sur internet c'était pertinent, et en fait on s'est rendu compte qu'il y a énormément de personnes qui ne se disaient pas forcément qu'ils allaient acheter des bijoux sur internet, mais qui faisaient des recherches. Et je me dis, là ils vont pas forcément chercher un livre personnalisé pour enfants, mais peut-être un livre en cadeau pour enfin. Pour réfléchir, si tu veux, au wording, mais je pense que ça peut-être être pertinent, et que si tu arrives à créer en fait ce qu'on appelle de la longue traîne, c'est-à-dire des termes de requête qui sont très précis, très qualifiés, par exemple, livre pour enfants personnalisé, c'est quand même assez précis, tu risques d'avoir assez peu de volume, mais par contre un volume très très qualitatif, et donc ça peut être un flux entrant, si tu veux, de potentielles commandes. Parce qu'une fois de plus, je te dis, sur du sur-mesure, dis-toi que nécessairement, en fait, c'est des personnes qui, il faut qu'elles soient très très qualifiées. Tu vas pas vendre un livre sur mesure où il y a une attente, où il y a une intention, de la même manière que si c'était sur un établi dans un magasin où juste tu l'achètes, ça coûte 5 euros, c'est pas pareil, quoi. Là, il y a une vraie intention derrière, donc je pense pense qu'il faut que tu cherches aussi des personnes qui ont une vraie intention derrière. Et donc, c'est pour ça que je te parlais de recherche, parce que bah, forcément, s'ils font la recherche, il y a une intention derrière. Donc, a priori, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais ça peut être pertinent.
Non, non, mais ça me parle parce que c'est vrai qu'en fait, quand on a réfléchi à quel livre on allait proposer en premier, on s'est dit plutôt que partir sur des histoires très générales, des contes, des choses comme ça, on s'est dit, bon, on va partir sur les thématiques un peu de les tracas du quotidien chez les petits. Et donc là, le premier titre qui est sorti, c'est sur la tétine, donc l'arrêt de la tétine, le prochain titre sur la peur du noir. Donc on s'est dit que peut-être que l'AdWords, on le ferait plutôt sur les thématiques.
Ouais. Bonne idée.
Plutôt que sur le
bah, hyper
le
intéressant, tu vois, une maman qui cherche, je sais pas, qui arrive pas à faire, qui sait pas si elle veut mettre une tétine ou pas sur son enfant parce que c'est pas la mode, etc. Hop, bah, en fait, elle a plein d'articles et elle va peut-être tomber, en fait, par hasard sur un livre sur le sujet qu'elle trouve mignon et qu'elle peut-être, elle peut lire à son enfant. Je trouve ça pas du tout inintéressant comme idée.
D'accord.
Et tu vois, pour moi, en plus, c'est assez créatif, donc je pense que t'auras assez peu de concurrence dessus. Du coup, ça coûtera moins cher. Mais pour revenir à nos moutons, moi je dirais que, à part le search que je trouve être un sujet intéressant, je pense qu'il faut que tu le creuses parce que ça peut être assez rentable. Au-delà de ça, la création d'une communauté, pour moi, tu as un boulevard, franchement, sur les mamans en fait, qui cherchent des conseils, qui cherchent juste à gâter leur enfant. Et du coup, il faut juste que tu arrives à trouver la bonne communauté, il faut que tu arrives à trouver la bonne différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'une maman va vouloir s'intéresser à Zèbre et Colibri? Qu'est-ce qui fait qu'elle va vouloir commander un livre ou une affiche sur mesure pour son enfant? Il faut vraiment ça, que ça soit clair et que tu arrives à le dire en une phrase. Et ensuite, que tu ailles démarcher toutes les communautés que tu peux trouver sur ce sujet, que tu fasses un vrai travail commercial si tu veux de démarchage. Faut pas que tu hésites aussi à offrir évidemment des ouvrages et, comme je te disais, offrir des expériences pour ensuite que ces personnes puissent en parler à leur tour. Et comme ça, tu pourras faire émerger la marque juste par bouche à oreille, quoi, tout simplement.
Oui, c'est sûr. Enfin, c'est vrai qu'on avait prévu de développer une partie blogging en plus du site. Ça devait sortir en même temps que le site, mais on avait pris tellement de retard sur le développement que finalement, on s'est dit, bon, on sort le site et on verra pour la partie blogging dans les prochaines semaines. Quoi.
Mais alors,
on a déjà des articles, des choses à pouvoir poster, mais là, on attend en fait que le blog puisse être
Mais tu t'en fiches, tu peux le faire sur Instagram. Tu sais, Instagram, maintenant, tu peux écrire des textes qui sont longs comme mon bras, il n'y a aucun problème. Honnêtement, je pense qu'il faut arrêter de repousser les choses tant que ça n'est pas parfait, parce qu'en fait ta vie d'entrepreneur, ça va être que ta vie ne va pas être parfaite et que tu vas devoir boucher des trous et éteindre des feux en permanence. Donc si t'attends à chaque fois que tous les feux soient éteints, tu ne vas rien faire et malheureusement ta boîte va se planter, si je puis me permettre. Donc t'as plutôt intérêt à essayer de foncer et à faire un maximum de choses, et surtout, et ça je le dis et je le redis, mais c'est pas clair, je pense, pour tout le monde, surtout quand il s'agit de démarcher des clients et d'avoir des clients, des ventes, c'est absolument fondamental, c'est le nerf de la guerre. Normalement t'aurais même dû presque avoir des clients avant même de lancer ton site, si tu veux. Pour moi, c'est un peu anormal que vous ayez attendu. Alors, je comprends ce qui s'est passé. Mais normalement, si tu veux, t'essayes déjà de tester un maximum ton marché en ayant des clients avant même d'avoir un bon site. C'est pas grave si le site est dégueulasse. Tu expliqueras à tes clients. Parce que si jamais, en tout cas, ton produit, il est bon, c'est pas dramatique si le site, il est pas parfait. Ouais. Donc, il faut vraiment, vraiment que tu te mettes dans une démarche de, en permanence, essayer d'aller choper des clients. Et c'est pour ça que je te dis que le travail sur les communautés, il est intéressant. Parce que ça va te permettre de tester assez rapidement, je pense, ton concept, ton produit auprès de cette clientèle-là. Mais au-delà des communautés, franchement, dès que tu rencontres une maman, tu lui en parles. Il faut en permanence, même dans la rue. Enfin, tu vois, même à moi, tu aurais pu me demander, et toi, est-ce que tu as des enfants, Pauline? Est-ce que tu veux acheter mon Zèbre et Colibri? Enfin, tu vois, et pourquoi, etc.
Il faut se faire violence, effectivement.
Exactement.
C'est pas du tout mon tempérament, et on se rend compte que, voilà, il faut, pour pouvoir y arriver et survivre, il va falloir aussi...
Exactement. Quand on est créatif, c'est pas facile. Quand on est un peu introverti, etc., c'est pas facile. Mais si t'aimes réellement ton produit, dis-toi, moi je le dis un peu souvent comme ça, je suis pas en train d'essayer de vendre un produit pourri à un client et de l'arnaquer, c'est pas du tout ça. Je suis en train d'essayer de lui rendre un service. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'aime sincèrement mon produit, et comme j'aime mon produit, j'estime en fait que ça va lui rendre service tout simplement s'il l'utilise. Donc en fait, il faut que tu te mettes vraiment dans cet état d'esprit-là et pas dans un état d'esprit que t'es en train de faire quelque chose de mal, tu vois, que c'est un peu sale. C'est pas du tout ça. C'est au contraire que plutôt qu'il achète un livre pour enfants qui soit moins qualitatif que le tien, t'essayes de proposer quelque chose où t'as mis toute tes tripes et toute ton âme pendant un an, et tu penses que ça lui fera plus plaisir que d'avoir quelque chose au rabais. Donc, sois vraiment en fait dans une démarche positive de vente et pas dans quelque chose où, comme tu dis, t'es obligé de te faire violence. C'est pas du tout ça.
Oui,
au contraire,
on a l'impression d'être intrusif,
que...
en fait,
c'est pas être intrusif. Si jamais t'es sincère dans la démarche et que t'aimes ton produit, évidemment, si t'aimes pas ton produit et que tu le fais fais pour les mauvaises raisons, j'ai pas envie, je vais pas te dire de le faire. Mais si tu l'aimes, et j'ai l'impression que c'est le cas, mais vraiment, dis-toi que c'est positif en fait de vendre et qu'une fois de plus, c'est un service. Une fois de plus, je te donne un exemple avec ma boîte. Moi, quand je vends une bague de fiançailles à quelqu'un, je pourrais me dire je gagne de l'argent sur son dos, mais en réalité, ce que je me dis, c'est que je vais aider cette personne à trouver un bijou qui va peut-être célébrer ensuite 20 ans de mariage, tu vois, et qui va être le symbole de leur union. Et sincèrement, c'est vrai que c'est ça que je fais. C'est pas juste d'essayer de lui vendre le truc le plus cher. Et toi, je pense que c'est exactement ce genre de démarche qu'il faut que tu fasses aussi.
D'accord. Ouais, effectivement, il faut plus voir le gain de l'autre côté.
Exactement. Exactement. Bon. Ok. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette aventure et bravo quand même pour ce que vous avez déjà accompli. Si jamais les auditeurs veulent te trouver ou trouver Zèbre et Colibri, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ?
Eh ben, il y a notre site internet, donc zèbre-et-colibri.com, et puis on est aussi présent sur Facebook et Instagram.
D'accord, bah, écoute, je mettrai tout ça dans les notes. Et donc, mesdames et messieurs, je vous invite évidemment à aller voir ce très joli site qui a mis très longtemps à être réalisé, donc ça vaut le coup. Aussi le site du compte Instagram et du compte Facebook. Et puis, je te dis merci mille fois, Mathilde, pour ton temps et puis pour tes
questions.
Merci
à toi surtout.
Et puis, je te dis à bientôt.
À bientôt, Pauline. Au revoir.
Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si oui, dites-le moi bien évidemment avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur iTunes. Sinon, c'est pas grave, vous pouvez aussi me le dire en commentaire sur iTunes, je le prendrai pas mal, ça m'aide toujours. Mais mieux que ça, vous pouvez me faire votre feedback en direct sur mon compte Instagram Pelenio. Ça m'aide encore plus à vous proposer les contenus qui vous plaisent. Donc allez-y, n'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps et pour votre attention. N'hésitez pas à postuler sur la leçon si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. C'est à vous de jouer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon du gratin.